Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous savoir fidèle au poste pour Culture Média et je n'ai qu'un mot à dire. Restez chez vous et écoutez-nous. Je dis ça avec le sourire. Au menu, 1h30 de médias et de culture au sens large. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, le journal des médias de Cyril Lacarrière, une page musique et des coups de cœur cinéma à rattraper en VOD. Notre info média, les 60 ans d'une institution, Télé 7 jours, qui se revendique toujours l'hebdo le plus lu de France. Bon anniversaire. Et en ces temps difficiles, ça fait plaisir de se réjouir d'un succès. Nos invités ensuite, Alessandra Sublet, elle signe un document Tony Parker confidentiel. Ce soir sur RMC, l'animatrice et productrice a plongé dans l'intimité de la star du basket qui lui a ouvert ses portes, les portes de ses maisons aux États-Unis et en France. Et c'est pas petit. Et pour la première fois, Axel, son épouse, se raconte devant une caméra. Enfin, dans la partie culture, l'académicien et prix Goncourt Éric Orsenna pour un nouveau roman, Briser en nous, la mer gelée. Dans le roman, il parle notamment de chauves-souris et de leur résistance au virus. Et il sait de quoi il parle, Orsenna. Il est ambassadeur de l'Institut Pasteur. Imaginez le nombre de questions qu'on a à lui poser. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, on a du temps. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au journal des médias. Cyril, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ?
Ce matin, nous parlons de West France qui joue la carte de la proximité, des personnalités préférées des lecteurs du journal de Mickey, de France 2 qui soutient les soignants et du retour, ou pas, de Malotru.
Cyril, mais mon micro est ouvert, ça y est. Mais Cyril, on débute avec les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier ?
Les Français ont regardé TF1 hier soir et sa série Les Bracelets Rouges, près de 5 700 000 téléspectateurs, un score en hausse par rapport à la semaine dernière. France 2 suit avec sa série Meurtre au Paradis, un peu moins de 3 900 000 téléspectateurs étaient devant la 2. Et enfin, troisième place pour Le Gendarme de Saint-Tropez sur M6. Et oui, Le Gendarme est toujours là, le classique avec Louis de Funès a attiré près de 3 millions de Français. Un mot sur les 20h puisque le Premier ministre était hier l'invité de Gilles Boulot sur TF1 et ça fait son effet. 11 757 000 téléspectateurs ont regardé le JT de la Une. Cela représente 38% de part d'audience. Les scores d'Edouard Philippe sont en hausse. Il a réuni 3 millions de téléspectateurs de plus que la semaine dernière lors de son passage sur France 2.
Et puis Cyril, vous nous avez parlé hier du lancement de la maison Lumni sur le service public et vous vouliez nous dire un mot de l'audience d'hier justement.
Oui, car c'est un très gros succès pour France 4. Il y avait plus d'un million de personnes devant la maison Lumni à 9h. Ça, c'est pour les plus jeunes. France 4 était à ce moment-là la première chaîne de France, du jamais vu.
Incroyable.
Pas encore le score des chaînes info, hein, bien sûr, mais c'est quand même du jamais vu. La suite de la journée a également été très bonne. 840 000 téléspectateurs à 14h pour la maison Lumni dédiée aux collégiens et 440 000 téléspectateurs à 15h pour la version lycéen. Voilà un programme qui a déjà trouvé son public. Ce qui ne va pas manquer d'alimenter le débat sur la suppression de France 4 prévue cet été. Enfin, j'en termine avec les audiences en vous soulignant qu'en cette période de confinement, les Français consomment beaucoup plus la télé qu'avant. Alors, c'est pas une surprise, mais les chiffres sont éloquents. La semaine dernière, nous avons regardé la télévision 4h48 en moyenne. C'est 1h17 de plus que la même semaine l'an dernier. Dimanche même, nous avons passé 5h15 devant notre écran de télé. C'est un niveau jamais atteint depuis 2006.
Et puis à propos de France 4, je précise qu'elle devait s'éteindre le 9 août prochain, je cite ça de mémoire, après les JO de Tokyo. Mais quid des JO de Tokyo, c'est un autre problème. On commence maintenant ce journal des médias proprement parlé avec une initiative. On relaie souvent dans cette émission les initiatives des médias qui accompagnent les Français pendant cette période de confinement. Et Cyril, ce matin, vous vouliez nous parler de Ouest France.
Oui, celui qui demeure le quotidien le plus diffusé de France a en effet décidé d'ouvrir largement ses portes durant ces semaines exceptionnelles que nous vivons. Accès libre à tous ses contenus numériques durant 2 mois, le journal donc, mais également son édition du soir, sa newsletter Minuit Sport et même ses archives, tout Ouest France donc entièrement gratuit. Mais ce n'est pas tout, Ouest France est également associé avec l'application Allo Voisin pour soutenir les initiatives de solidarité. Nous avons joint François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef du quotidien. Il nous explique les raisons de ce partenariat.
L'idée, si vous voulez, c'est de permettre à des gens de se rencontrer, de se croiser, d'exprimer des besoins qu'ils ont et d'inviter des gens qui sont à proximité de chez eux à apporter une réponse. Donc c'est une plateforme d'interactivité qui est extrêmement intéressante, qu'on connaissait bien, donc on a décidé d'additionner nos forces. On a aussi mis en place des communiqués Facebook. En fait, on essaie vraiment de tout mettre en œuvre pour que les gens qui se posent des questions très concrètes de vie quotidienne trouvent une réponse de proximité. Et le média, il est aussi là pour ça. Au passage, on remarque, et ça c'est quand même assez fabuleux, l'élan de solidarité qui est en marche dans ce pays, et c'est sans doute pareil partout, mais c'est extraordinaire comment les gens deviennent attentifs les uns aux autres. Plus on s'isole chez soi, plus finalement on a envie de savoir ce qui se passe chez les voisins, si certains ont besoin d'aide, ont besoin d'un coup de main. Et il y a un élan assez fabuleux qui est en marche et qu'on prend vraiment plaisir à raconter dans nos colonnes et sur nos supports numériques.
Quand on voit la manière dont les médias se mobilisent autour de ce coronavirus pour tenter d'accompagner les Français, on se dit que les médias prennent tous à bras-le-corps une mission de service public. Écoutez justement ce qu'en pense le rédacteur en chef de Ouest France.
Je crois qu'on a un rôle essentiel, nous les médias, à jouer auprès de tous les gens qui sont confinés chez eux, qui se posent mille questions, des questions de vie quotidienne, des questions très concrètes, mais on est là pour y répondre. Mais il est clair que dans un moment comme ça, où plein de questions se posent, naturellement, les gens se tournent vers nous. Ceux qui sont abonnés et qui nous lisent tous les jours sont habitués à ce qu'on soit en échange avec eux. Mais j'ai envie de dire, les gens se rendent compte que, ben oui, les médias ont des choses concrètes à apporter. Les médias sont des maisons sérieuses, les médias bossent, les médias vérifient leurs informations, les médias vont chercher lorsqu'elles ne sont pas là, quand on se pose des questions très concrètes. Et lorsque nous, on est en mesure, nous les journalistes, d'écouter un petit peu les attentes de nos lecteurs, on se met en quatre pour y répondre. Et je crois que le lien qui est en train de se renforcer avec les médias dans un moment de crise comme celui-là, il rappelle simplement que dans une démocratie, les médias ont un rôle absolument essentiel. Et nous, on y croit fort à ça.
Un optimisme qui fait du bien, en espérant qu'une des conséquences positives de cette crise sanitaire puisse au moins d'être de ressouder le lien entre les Français et leurs médias.
Chaque année, même chaque mois, on parle beaucoup du classement des personnalités préférées des Français, classement établi par le JDD. Mais comme il n'y a pas que les grands qui rêvent, Cyril, vous nous parlez ce matin du classement d'un autre journal.
Et ce journal, c'est celui de Mickey, l'hebdomadaire destiné aux enfants et aux jeunes ados, publie lui aussi son classement des personnalités préférées, mais pour les 7-14 ans. Le premier de ce classement, c'est Soprano. Le chanteur marseillais avait déjà occupé cette place il y a 3 ans. Le revoilà donc aux avant-postes. La deuxième place est pour le duo Big Flo et Oli. Et la troisième pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France de football. Toujours très peu de femmes dans le top 20 de ce classement. L'an dernier, il n'y en avait qu'une. Cette année, elles sont 3, Angèle, Louane et Vita. Mais c'est quand même pas beaucoup.
D'accord. Et à noter que même les petites filles votent évidemment. Une émission spéciale ce soir sur France 2 sur la crise sanitaire qui frappe la France.
Et ce soir, plutôt que parler spécifiquement du Covid-19, France 2 a décidé de mettre en avant ce qu'une partie des Français se sont mis à applaudir chaque soir à 20h, les soignants, ensemble avec nos soignants. C'est donc le titre de l'émission spéciale de ce soir, co-présentée par Faustine Bollard, Daphné Burki et Samuel Etienne. Faustine Bollard nous explique l'importance de mettre en lumière ce personnel soignant. Et pas que.
On est tous touchés et on est tous bouleversés, évidemment, par l'engagement sans faille de nos soignants pendant cette guerre que nous menons tous. On a tous des frissons quand on sort de chez nous à 20h pour applaudir. Et moi, je suis au fin fond de ma campagne et je peux vous dire que j'applaudis aussi dans mon jardin, un peu toute seule, mais je le fais. Ces images nous bouleversent et on s'est dit avec France 2 qu'il était, enfin, c'est surtout France Télévisions qui s'est dit qu'il était extrêmement important de les soutenir au-delà de ces quelques minutes d'applaudissement, de leur montrer à quel point on était derrière eux et aussi de donner justement accès au grand public, à tout ce lien qui est en train de se créer sur les réseaux sociaux avec ces gens qui s'engagent pour les aider, ces initiatives partout à travers la France qui se mettent en place, ces artistes qui se mettent à chanter dans leur salon pour soutenir les gens éconfinés, mais également pour manifester leur soutien aux soignants. Et avec France Télévisions, il nous a paru extrêmement important de prolonger finalement ces frissons de 20h, ces applaudissements pour leur consacrer vraiment une soirée aux soignants, mais également à tous ceux qui font que la France aujourd'hui n'est pas à l'arrêt, à toutes les caissières, à tous les livreurs, à tous les camionneurs, à tous ceux dont on ne parle pas et qui assurent aujourd'hui au front pour nous.
L'objectif de ce Prime, c'est aussi de relayer les besoins prioritaires des hôpitaux et des personnels de santé, d'où l'association pour l'occasion entre France Télévisions et la Fondation de France, une manière de renforcer la collecte des dons en faveur des soignants. À ce sujet, on a appris hier que France Télévisions avait récolté plus d'1 million d'euros de recettes publicitaires qui seront reversées au profit de Ensemble avec nos soignants. Et je tout de même demandais à Faustine Bollard si à force d'émissions spéciales, on ne risquait pas de répéter un peu toujours la même chose.
J'ai réalisé que ma mère, par exemple, qui n'est pas du tout connectée, n'a pas du tout accès à ce que moi je vois sur les réseaux sociaux de solidarité. Par exemple, on va donner la parole à beaucoup d'artistes qui seront en direct avec nous de leur salon et qui vont chanter. Voilà, moi, ma mère n'a absolument pas vu ni les Facebook Live de Patrick Bruel, ni les chansons de Jean-Louis Aubert. Elle n'a absolument pas accès à ça. Mais nous, évidemment, Parisiens, journalistes hyper connectés et évidemment les plus jeunes, on a accès à ça. Mais je me suis dit, enfin, on on a vraiment réalisé qu'il y avait toute une partie du public qui voyait pas tout ce qui se passait. Et nous, on veut mettre aussi un petit peu, on va dire, à la télé accessible à tous, ce qu'on voit aussi sur les réseaux, et créer un espèce de chaîne de solidarité à la télé pour quelques heures, où on va essayer de sourire malgré tout, où on va essayer de voir le verre plein tous ensemble, en fait.
Parmi les artistes annoncés par France 2, Patrick Bruel, Carla Bruni-Sarkozy, Joyce Jonathan ou encore Gad Elmaleh, Ensemble avec nos soignants, c'est à 21h sur France 2.
Et on salue Madame Bollaert, le bureau des légendes, bientôt de retour sur Canal+.
La formidable série d'Éric Rochant avec notamment Mathieu Kassovitz revient le 6 avril sur Canal, une saison 5 très attendue. Ouais. Si vous avez vu la 4, vous savez pourquoi je dis ça. Ouais. Mais si vous ne connaissez pas la série, Canal vous offre une occasion en or pour rattraper cette lourde erreur. La chaîne cryptée qui diffuse ses programmes en clair jusqu'au 31 mars va proposer les 4 premières saisons du Bureau des Légendes entre le 28 et le 31 mars à raison d'une saison par jour. Une grosse dose de binge-watching, de consommation jusqu'à foison donc de séries à l'horizon si vous voulez vous plonger dans l'univers de cette série sur le renseignement. Pour patienter, je vous propose d'écouter un morceau de la bande-annonce du Bureau des Légendes où l'on entend la voix du glaçant Gigi A interprété par Mathieu Amalric.
Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif. T'en penses quoi ? Faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que t'as compromis. Ce que t'as livré à la CIA, ce que t'as livré aux Russes. Je ne te fais pas l'affront de penser que t'as aussi pu collaborer avec Daesh. De se poser des questions.
Voilà. Voilà, 10 épisodes par saison. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Ça aussi, c'est un feuilleton. À demain. Dans un instant, place à l'info média du jour. Nous serons en compagnie de Jérémy Parer. C'est le rédacteur en chef de Télé 7 jours, l'hebdomadaire qui fête ses 60 ans. On en parle dans un court instant, mais avant, musique sur Europe 1. On écoute Lizzo, le titre « Good as Hell ». Le 26 mars 1960 paraissait le premier Télé 7 jours avec l'actrice Marie-Josée Natte en couverture. 3121 numéros plus tard, ce sont 4 personnalités qui se partagent la une de cette édition anniversaire. Dorothée, le titre idole des jeunes, Evelyne Delia, reine de la météo, Ingrid Chauvin, star des séries et Jennifer, icône de génération. Et pour souffler ces 60 bougies, nous sommes avec Jérémy Parer, le rédacteur en chef de Télé 7 jours. Bonjour Jérémy Parer.
Bonjour Philippe.
Question simple, basique, comment avez-vous choisi ces 4 personnalités-là?
Alors, question simple, pas si simple que ça au final, on les a choisies parce qu'elles étaient représentatives de plusieurs générations, en tout cas de la télé, et de plusieurs univers différents de la télévision et du monde du divertissement. Donc voilà, vous l'avez dit, Ingrid pour les séries, Dorothée pour la jeunesse, Evelyne Delia pour la météo et Jennifer pour les télécrochets et le divertissement au sens plus large.
Alors, je reprends vos termes, idole, reine, star, icône. Elles sont toutes les 4 sur TF1. Vous avez un deal avec TF1 ou est-ce qu'il n'y a pas d'icône, pas de reine, pas de star sur France Télé ou sur M6? Il y a Élise Lucet, Karine Lemarchand, Anne-Sophie Lapix, Sophie Davant, Faustine Bollaert. C'est pas rien. Pourquoi que des personnalités de TF1?
Oh, mais Dorothée a quand même commencé sur Antenne 2 à l'époque.
Oui, bien sûr.
Pas
bien
que
sûr.
TF1, même si, voilà.
Non, non, après, vous avez bien compris ma question.
Bien sûr. Non, mais il y en a. À l'intérieur du magazine, on a aussi Michel Drucker, on a Michel Simès. On a voulu être le plus large possible. Et après, il nous a semblé que ces 4-là, en tout cas, il s'est trouvé qu'elles ont effectivement officié sur TF1. Mais que ces 4-là étaient les plus représentatives, en tout cas, de ce qu'on voulait dire pour ce numéro anniversaire.
D'accord. C'est la 50e couverture pour Jennifer. Elle est la personne en une qui fait le plus vendre.
Elle fait bien vendre, oui, c'est vrai que c'est le record absolu. Il y avait Johnny qui était juste avant elle, avant sa mort. Mais oui, elle fait bien vendre et je pense qu'il y a un vrai attachement entre Jennifer et le public, même si elle peut être décriée beaucoup pour d'autres raisons. Mais il y a un vrai attachement et c'est vrai que quand on la met en couverture, on sent un petit regain de vente également.
Ouais. Il faut dire que la majorité de vos ventes, c'est sur abonnement. La vente en kiosque, ça représente combien ?
Alors, la vente en kiosque, c'est à peu près 360 000 exemplaires et on a 630 000 abonnés à peu près.
Oh mon Dieu, rien que ce chiffre, ça fait rêver. 360 000 voilà. Exemplaires, il y a des journaux qui seraient heureux d'avoir même ça à l'année. Vraiment, c'est dingue c'est le succès de...
C'est 1 million d'exemplaires chaque semaine au final Télé 7 jours, donc on est très heureux d'être en très bonne forme encore.
Voilà, et nous aussi on est très heureux de vous savoir en très bonne forme. Pourquoi 4 femmes en couverture? Pourquoi pas 2 hommes, 2 femmes? Vous auriez pu choisir Michel Drucker ou Jean-Pierre Pernaut, qui sont aussi dans votre numéro. Est-ce que parce qu'une femme en couverture, c'est plus vendeur par rapport avec l'électorat, qui est certainement féminin, j'imagine?
le lectorat est principalement féminin, c'est vrai, et c'est aussi une volonté du magazine depuis quelques années, en fait, d'avoir évolué vers un concept un petit peu plus féminin, d'avoir des couves plus épurées. Et c'est vrai que les femmes en couve sont généralement mieux perçues par les lecteurs. Mais c'est surtout, ça tient à l'ADN du titre. Il y a des hommes en couve assez régulièrement. Ouais. Mais surtout pour ces 60 ans, on voulait vraiment mettre 4 femmes en avant parce qu'elles sont parfois sous-représentées dans les médias et c'était l'occasion aussi de le faire avec ce numéro.
Là-dessus, on est bien d'accord avec vous. Quand il était le patron de Télé 7 Jours, je me souviens que Thierry Moreau m'avait dit, il était le patron de Télé 7 Jours de 2006 à 2017, donc pendant 11 ans. Il m'a dit, j'ai une doctrine, je ne mets que des femmes en couverture. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Ben non, parce qu'on ne met pas que des femmes en couverture. On a mis Philippe Etchebest, on a mis Michel Simès, on met plein d'hommes en couverture. M. Pokora, quand il est en fiction, quand il sort un album. Donc non, il n'y a pas une doctrine de mettre que des femmes. Il y a beaucoup de femmes parce que, comme je l'ai dit, c'est bien perçu et qu'en plus, je pense qu'on a un rôle à jouer dans la représentation des femmes dans les médias. Mais non, ce n'est pas que des femmes.
Il y a des hommes qui font vendre quand même un peu.
Oui, bien sûr. Ben, M. Pokora, notamment, Michel Simès. Qui d'autre? Il y avait... Philippe Etchebest avait très bien vendu également en couverture. Donc non, il n'y a pas, il n'y a pas que les femmes qui font vendre. C'est vrai qu'on fait moins d'hommes en couverture, mais c'est assez, ça se vaut, on va dire que les ventes peuvent être très bonnes pour des hommes, comme elles peuvent être moins bonnes aussi sur certaines personnalités féminines.
Dernière question sur les couvertures. Est-ce qu'un programme avec une forte audience fait mécaniquement une forte vente?
Alors non, et ça on s'en est aperçu plusieurs fois, c'est-à-dire que des programmes qui peuvent faire des millions de téléspectateurs peuvent être une vente classique, voire parfois décevante.
Par exemple,
et à l'inverse, des programmes qui n'ont pas du tout marché par la suite, par exemple The Voice, si vous voulez, The Voice, si vous ne mettez pas un coach emblématique, c'est pas forcément une très bonne vente, ou quand, je sais pas, par exemple Koh-Lanta, à l'époque, quand on a fait des candidats de Koh-Lanta en couverture, ce n'est pas forcément des très bonnes ventes, alors que le programme est un des plus regardés en France.
Oui, mais c'est normal, parce que les candidats, ils sont connus que d'une saison. Il faut comparer avec Denis Brognard, qui est là depuis longtemps, si on veut comparer couverture par couverture. Est-ce que, par Denis exemple, Brognard, quand vous mettez Corinne Maziero, qui incarne Capitaine Marlowe, qui écrase tout en audience sur son passage, est-ce que c'est la même chose? Ça se ressent sur les ventes?
Oui, alors là, il y a consensus total autour de Corinne Maziero, c'est-à-dire que c'est un succès d'audience comme un succès en vente. Ça, heureusement, on s'y retrouve dans quelques fois quand même.
D'accord. Alors, au sommaire de ce numéro, retour sur les 6 dernières décennies de télévision. Il y a aussi plusieurs interviews de personnalités qui ont marqué ces 60 dernières années. Evelyne Delia, Jennifer Dorothée, Ingrid Chauvin, je l'ai dit. Michel Drucker, Jean-Pierre Pernaut, Michel Simès. Pourquoi eux? Vous avez choisi ceux qui avaient la plus longue longévité télévisuelle pour toucher toutes les générations ou pas du tout?
Oui, c'est ça. Il y avait une question de longévité. Par exemple, aussi, Evelyne Delia, qui est en couverture, c'est une des seules personnalités, en fait, à avoir fait une couverture dans les 6 décennies de Télé 7 jours. Mmh. Et donc, on voulait vraiment prendre des personnes représentatives. Après, plein d'autres ont été évoquées. On aurait adoré faire Claire Chazal pour l'info. Mais au final, on a choisi Jean-Pierre Pernaut, qui est encore à l'antenne. Michel Drucker, évidemment, parce qu'à lui seul, il a 60 ans de télé. Donc, il y avait une question de longévité. Ouais. Il y avait aussi une question de représentativité. Jennifer, on l'a prise aussi parce que c'est la première gagnante d'un grand télécrochet, première jurée aussi d'un télécrochet qui a aussi changé l'histoire de la télévision The Voice, même s'il y en a eu plein d'autres entre-temps. Donc c'était vraiment d'avoir quelque chose d'assez impactant et de représentatif. On aurait adoré en mettre beaucoup plus, mais malheureusement, on manquait de place.
Avant, il y avait une cérémonie qui était assez incroyable, je me souviens, c'était les 7 d'or. Drucker, ouais, ou Dorothée n'ont pas oublié ça. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, j'explique. Les 7 d'or, c'était une cérémonie qui récompensait les programmes télé. Ça s'est terminé, ça a commencé en 85, ça s'est fini en 2003. C'était un peu les Césars de la télé. Pourquoi ça n'existe plus, vu d'autant plus que cela n'a pas été remplacé?
Non, c'est vrai que ça n'a pas été remplacé. Ça n'existe plus parce qu'à l'époque, alors j'étais pas à Télé 7 jours, mais je sais qu'il y avait eu quelques petits soucis, justement, le fait de récompenser des animateurs d'une chaîne sur une autre chaîne. Donc c'était une forme qui avait eu du mal à se pérenniser, on va dire, au bout
d'un moment.
Oui,
mais vous étiez œcuménique. L'avantage d'avoir un journal comme Télé 7 jours, c'est que vous étiez œcuménique, vous traitiez toutes les chaînes.
C'est ça. Mais après, voilà, comme elle était diffusée à la télé, cette cérémonie, il y avait aussi, à l'époque, une petite guerre des chaînes. Et puis, je pense qu'il fallait la renouveler, mais on réfléchit à faire revenir les 7 d'or. C'est quelque chose qui ne nous quitte pas depuis quelques années.
C'est vrai. Ben là, vous allez avoir du temps, ouais, pour parler aux gens, parce qu'ils sont tous chez eux. Ils vont tous décrocher le téléphone. Ils ne sont plus au bureau. Vous allez avoir du temps. Nous, on continue notre infomédia du jour en compagnie de Jérémy Parer, le rédac-chef de Télé 7 jours qui fête les 60 ans de son magazine. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Télé 7 jours qui souffle ses 60 bougies. Nous sommes avec Jérémy Parère, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Dans Télé 7 jours, évidemment, il y a la grille des programmes. Mais d'abord, avant qu'on parle des programmes, quand est-ce que, question technique, quand avez-vous bouclé ce numéro? C'était avant ou après le confinement? Ce sont quoi vos délais?
Alors, il a été bouclé un peu pendant, surtout. Il a été bouclé lundi dernier en partie avec la touche finale mardi, du coup, à distance pour tout le monde.
Voilà. Et alors, pour cause de coronavirus, les grilles des programmes sont modifiées et donc il y a potentiellement quelques spoilers. C'est-à-dire qu'on peut vous annoncer la suite de quelque chose qui aurait dû passer finalement, qui n'est pas passé, suite au redécoupage des soirées, par exemple des soirées de The Voice ou de la série Profilage. Oui. Et d'ailleurs, vous en êtes excusé sur Twitter, racontez.
Oui, parce qu'en fait, il y a forcément des déprogrammations. On est prévenu pour certaines déprogrammations. Mmh. Pour certains redécoupages, pas toujours, ou en tout cas pas en temps et en heure. Donc, pour The Voice, c'était moins gênant parce que ça décalait juste le lancement des KO. Après, effectivement, pour Profilage, quand on a une interview d'un comédien qui, même si on tease généralement sans vouloir spoiler, forcément avec une voire deux semaines de décalage, il y a des petites infos qui peuvent passer au travers. Donc, je m'en suis excusé parce qu'il y a rien de pire, je pense, pour un lecteur que d'être spoilé sur ce qui peut se passer dans une série ou un programme, donc c'était quand même la moindre des choses.
On est obligé de parler anglais quand on bosse à Télé 7 jours? Non, je vous dis ça avec ironie parce que
certains termes.
Voilà. Non, parce que nous aussi on tease sans vouloir spoiler, donc je vais pas vous le reprocher. Au milieu des programmes, il y a ce message en dessous des cases RMC Sport, Eurosport, Bein Sport. En raison de l'annulation, écrivez-vous, de tous les événements sportifs, ces chaînes ne sont pas en mesure de communiquer leur programme. Et vous dites que vous allez devoir écrire ça malheureusement de plus en plus souvent. Comment vous allez faire?
Écoutez, sur les chaînes sport, heureusement, elles ne représentent pas une grosse partie, en tout cas, des grilles. Après, sur les autres programmes, on s'excusera de la même manière, de numéro en numéro, s'il y a des gros changements.
Mais là,
pour les événements sportifs, c'est assez clair. Donc, ouais. Du coup, on a préféré ne pas passer par d'autres chemins que de dire simplement c'est annulé, donc on ne peut pas communiquer les programmes. Et les chaînes ne peuvent pas communiquer leurs programmes, surtout.
Ouais. Jérémy, vous bouclez avec quel délai? Ce que vous êtes en train d'écrire maintenant, ça sera publié dans combien de temps? Dans deux semaines? Dans trois semaines? Dans une semaine?
Le magazine est bouclé le mardi avec les programmes qui tombent pour boucler la dernière page qui s'appelle la semaine prochaine, donc avec les programmes de la semaine suivante. Donc c'est bouclé le mardi dans l'après-midi pour le numéro qui sort en kiosque le lundi, mais qui est chez les abonnés dès le samedi.
En quoi le coronavirus a changé votre manière de travailler? Comment ça se passe? Vous bouclez plus tard? Vous mettez les choses entre parenthèses avec des pincettes, avec du conditionnel? Comment ça change?
Alors ça change, on est encore plus réactif par rapport à ce qui se passe, on ne peut pas prendre non plus trop de liberté, c'est-à-dire qu'on fait attention forcément, il y a des sujets même dans la partie art de vivre du magazine qui peuvent être un petit peu, voilà, les sujets escapades, les ouais. sujets voyage, ça on a tout enlevé parce que forcément confinement oblige, et c'est surtout là on est en train de boucler donc le premier numéro entièrement réalisé à distance, et d'ailleurs je tiens à remercier vraiment toutes les équipes qui ont fait un travail exceptionnel dans ces conditions particulières. Donc ce que ça change c'est ça en fait, c'est la façon de travailler, puisqu'on ne se voit plus physiquement. Et effectivement, on est très vigilant sur les déprogrammations et sur ce qui se passe pour ne pas commettre d'impair, vu que même si le délai de bouclage est quand même assez resserré, on peut se permettre de passer à côté de certaines choses.
Oui, et puis dans Télé 7 jours, il y a la grille des programmes, forcément. Vous l'avez dit, il y a plein d'autres rubriques. Il y a des conseils plantes pour réaliser un désert de cactus. Yann Rick Alimo, vous posez cette question. Mon chien peut-il devenir vegan? Une rubrique santé. En fait, on est obligé de se diversifier. Un journal télé, pur programme, c'est fini.
Bien sûr, ça a toujours été l'ADN de Télé 7 jours, c'est d'avoir plusieurs magazines dans un seul. C'est-à-dire qu'il y a la première partie qui est très actue, divertissement, on va dire, même si on a une page société que là, on a enlevé aussi pour des raisons de coronavirus. Mais voilà, on a la partie programme et on a une partie un petit peu plus art de vivre ouais. à la fin. C'est vraiment d'avoir plusieurs magazines dans un seul, ça a toujours été l'ADN du titre. Et nous, c'est une vraie volonté de mettre l'interview au centre du magazine, d'être le plus diversifié possible et d'avoir une partie télé qui est vraiment centrée donc au milieu du magazine avec les grilles et des papiers plus décrits. Plus télé au milieu du magazine, mais le reste est beaucoup plus ouvert sur la musique, le cinéma, la déco, la mode.
Voilà. Il y a aussi cette page Télé 7 jours vous répond qui fait notre joie, une sorte de courrier des lecteurs. Par exemple, on a relevé une question d'Annick de Caen. Quelle est la marque des espadrilles colorées que porte Sophie Davant dans Affaires conclues sur France 2? Et là, vous démontez pas, vous lui répondez. L'animatrice oui. porte des espadrilles compensées tendance de la marque Castanère, confectionnées en toile de coton, en tissu éponge ou en satin à rayures unies ou brodées, à brides ou à lacets, bout arrondi ou pointu. Il existe un grand choix disponible sur castanère.com. Là, vous vous amusez quand même.
Ben bien sûr, et vous savez que le plus grand nombre de questions qu'on reçoit, c'est sur les musiques de pub et justement sur les vêtements que les animateurs ou les chanteurs peuvent porter en plateau.
Ouais.
Donc du coup, on a choisi de faire une page courrier un peu différente des autres, plutôt que que les gens donnent leur avis sur les programmes plutôt de répondre à leurs questions, parce qu'il y en a souvent, et parfois c'est même le médecin qui intervient dans le magazine qui peut répondre sur une question de santé, ou voilà, on choisit de répondre aux lecteurs plutôt que de donner simplement leur avis sans mettre en contexte.
Merci pour ces infos, Jérémy Parère. Je rappelle que vous êtes le rédac-chef de Télé 7 jours, numéro anniversaire des 60 ans, c'est en kiosque depuis hier, avec Au Choix en couverture. Elles ne sont pas toutes les quatre, mais il y a quatre couvertures: Dorothée, Evelyne Delia, Ingrid Chauvin ou Jennifer. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va retrouver Alessandra Sublet pour son documentaire Tony Parker Confidentiel. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis on va recevoir le romancier Éric Orsenna pour son livre Brisé en nous, la mer gelée. Mais je ne vous dis que ça, il est également ambassadeur de l'Institut Pasteur. Il parle beaucoup de virus dans son roman. Il l'a écrit avant la crise du coronavirus. Et vous imaginez bien qu'on a plein de questions à ce sujet à lui poser. Dans Les Indispensables, Mathieu Charrier va nous proposer ses coups de cœur ciné, tous les films qu'on n'a pas pu voir quand ils étaient sortis. Mais maintenant, ils sortent en VOD, donc c'est vraiment le moment, on a du temps. Et on va parler de musique avec les projets solo des ex-membres du groupe The Do. C'était facile, ils étaient deux, et ça sera avec Angèle Châtelier. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la suite de l'émission. Alessandra Sublet avec nous pour son documentaire sur la star du basket français Tipeee, Tony Parker, le journal de la culture d'Hélène Manarino, et puis l'écrivain, romancier, académicien Éric Orsenna pour son nouveau roman Brisé en nous, la mer gelée, un titre magnifique. Dans Les Indispensables de la musique et les coups de cœur ciné à rattraper en VOD.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Alessandra Sublet.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est votre chien derrière vous?
Oui, ah, on fait des faunas en famille aussi. Hein. Le télétravail, ça implique qu'on n'ait pas forcément de pièces isolées pour les chiens, les enfants.
Non mais ça aurait, ça aurait pu être Nicolas Canteloup qui imite une voix.
Non.
Je le dis, vous êtes en quotidien avec quelqu'un qu'on aime bien ici, Canteloup. C'est Canteloup, c'est le soir à 20h50. Est-ce que ça continue pendant le confinement?
Non, d'abord parce que les journaux sont très longs,
ouais.
Évidemment. Et puis l'info, elle est presque unique. Donc oui, c'est compliqué pour Nicolas les auteurs. En revanche, je crois que des magnétos et des petits best-of se préparent.
Ah, d'accord. Parce que, comme disait Alain Chabat, c'est bon de rire parfois. On vous a vu également, oui, dans Masque Singer. Et ce soir, vous proposez un document sur la petite sœur de TF1, TMC. Ce doc que j'ai vu s'appelle Tony Parker Confidentiel. Pour se mettre dans l'ambiance, bande annonce.
Événement Tony Parker comme vous ne l'avez jamais vu.
Et tous les gens que j'aime, donc pas facile.
Le plus grand basketteur français vous ouvre les portes de son intimité.
La première fois que je suis arrivé à l'INSEP, c'était avec la deux chevaux de ma mère, et donc j'ai découvert le campus comme ça.
Son enfance, sa carrière exceptionnelle, sa nouvelle vie.
Les gars, nous disons bonjour à un ancien.
Famille et amis vous racontent cette légende vivante du sport.
Tony, c'est un acharné.
Zidane du basket, c'est lui en vrai.
Merci Tony.
Et Anthony Parker et les autres, ça
m'a dit. Yeah, yeah.
It's at the world, try.
Inédit, Tony Parker Confidentiel, un documentaire exceptionnel sur TMC.
Alors je précise que les voix qu'on vient d'entendre, ce sont son papa, mais surtout Teddy Riner, Thierry Henry, le DJ Cut Killer et Michael Jordan, rien que ça. Comment avez-vous travaillé?
Alors en fait, c'est un documentaire au long cours que j'ai produit avec Black Dynamite, Eric Enzo, que je salue. On travaille, déjà la confiance doit s'installer, ouais. Donc du coup on discute beaucoup avec Tony.
Vous le connaissiez depuis longtemps, Tony Parker?
Alors, on n'est pas potes.
Ouais.
On se connaît, on s'est croisés sur des plateaux télé. Il se trouve qu'il a racheté l'ASVEL, qui est le club de basket lyonnais. Mmh. Et comme je suis lyonnaise, forcément, ça crée des liens.
Ouais.
Mais je lui ai proposé longtemps. À chaque fois que je le voyais, je lui disais, tu sais, on devrait faire un documentaire ensemble. Ce serait bien que les gens voient comment tu as évolué, ton parcours, ta vie d'aujourd'hui, etc. Et puis, il m'avait souvent dit, et à juste titre, que des documentaires professionnels avaient été faits sur lui. Et je lui ai dit, mais moi, j'aimerais qu'on ouvre les portes en grand. Et puis, en fait, il y a un an, il m'a dit, écoute, je vais prendre ma retraite. Et j'aimerais bien, à ce moment-là, qu'on fasse le doc la dernière année de ma carrière professionnelle. Et OK pour t'ouvrir les portes. De chez moi à San Antonio au Texas, à Lyon. Et du coup, oui, c'est un documentaire au long cours. Et comme vous l'avez dit, en plus, il est pote avec des personnalités qui ne sont pas faciles à avoir. Thierry Henry, Teddy Riner, on a fait la dernière interview de Kobe Bryant à Los Angeles. Michael Jordan aussi qui était de passage à Paris. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que C'est pour ça que c'est long.
Ouais. Il y a des images d'archives assez exceptionnelles. Il y a la dernière année, mais aussi ses débuts quand il était junior. Et on voit la bombe de basket qu'est ce petit bonhomme, parce qu'il était petit pour l'époque.
C'est limite.
Mais on dirait, c'est limite des VHS. On le voit aussi avec sa fameuse deux chevaux. Vous avez réussi, vous l'avez dit, à convaincre Tony Parker de tout montrer, pas qu'un peu. Vos caméras sont allées filmer son intimité, notamment sa maison. Il a fallu négocier parce qu'au début, sa femme Axelle était réticente à l'idée de montrer le luxe dans lequel ils habitent. Écoutez Tony Parker, il est au micro de Louise Bernard.
Bah, elle avait peur de la réaction des Français, quoi, et qu'on se concentre pas que sur la maison, quoi. Nos valeurs sont beaucoup plus profondes. Comment on éduque nos enfants, comment on a réussi dans nos métiers respectifs, que ce soit ma femme ou moi. C'est venu avec le temps, on va dire, la confiance. Au début, on parle du film et t'ouvre certaines portes, et puis après, tu te sens de plus en plus à l'aise, et après, petit à petit, bah, il y avait plus rien qui était fermé, et c'était porte ouverte, et on lui faisait confiance avec ma famille et ma femme. On a eu des bonnes discussions avec Alex. Et après, on faisait confiance à ses équipes aussi.
Il faut dire que chez lui, j'ai vu les images, il n'a pas une piscine, il a un parc aquatique. Alors, pour raconter aux gens qui n'ont pas vu l'émission, Alessandra, je raconte, la probabilité est immense. Tous les matins, il va faire du sport dans sa salle de sport perso, mais il y va dans une voiture de golf tellement la salle est éloignée de sa maison. Il a une salle de basket, c'est hyper drôle. Il a mis une table de poker au milieu de la raquette parce qu'il ne joue plus au basket. Et là, parce qu'on parlait de valeur, c'est là où je veux en venir, vous lui parlez d'argent, il vous raconte ses débuts et il compare les époques.
Quand mes amis viennent ici ou la famille, c'est oui, c'est beau, oui, c'est grand, mais c'est pas ça qui m'a motivé en fait. Quand je jouais au basket au début, je savais même pas ce que c'était moi, la valeur de l'argent. Moi, quand j'étais à un camp de basket, je lui disais, mais comment tu fais pour shooter? Comment tu fais pour battre ton défenseur? C'était des questions spécifiques basket. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, que les questions, c'est ça fait quoi d'être connu?
C'était une autre époque.
Non, c'est la même époque, mais en fait, Tony, je trouve que ce documentaire, il est exceptionnel pour ça aussi, parce qu'il veut transmettre à la jeune génération. Il veut expliquer à la jeune génération que la notoriété, c'est pas le point le plus important. Oui, il vit dans une grande maison. En même temps, c'est le seul joueur français qui a atteint l'excellence, c'est-à-dire la NBA et le titre de MVP, c'est-à-dire meilleur joueur en NBA. Donc, c'est pas rien. Et encore une fois, ce qu'il explique, c'est que c'est pas venu comme ça. Il s'est fait plaisir parce qu'il a, à force de travail, de passion, d'envie, gagné sa vie. Et quand il dit j'avais peur du regard des Français, c'est que les gens se disent oui, bah lui, forcément, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il vient de rien, d'un milieu plutôt modeste. Il a tout construit lui-même. Et moi, je trouve ça très bien de montrer qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à des sommets en partant de rien. Il est là le message. Et c'est important.
Alors, je souscris totalement à ce que vous dites et je pense à tous les parents qui nous écoutent et qui sont en ce moment en confinement avec leurs enfants. Montrez-leur ce documentaire, même s'ils se couchent tôt. Ce passage arrive dans les 20 premières minutes. Ils vont comprendre que ce qui compte, c'est le boulot et pas les paillettes. Vous restez avec nous, Alessandra. On se retrouve pour parler de votre documentaire sur la star du basket français, Tony Parker. On marque une pause et on se retrouve. En compagnie d'Alessandra Sublet, qui diffuse ce soir un reportage que vous avez concocté, Tony Parker confidentiel, reportage incarné, comme on dit, c'est ce soir à 21h. Une heure sur TMC. Vous êtes allé filmer dans la maison du basketteur en France. Il vous a ouvert les portes, ces portes-là aussi. Il y a un entretien avec sa femme, Axel, avec qui il a deux bébés, deux petits-enfants. Axel a toujours refusé de parler devant une caméra. Qu'est-ce qu'il a décidé à vous parler?
Alors d'abord, on a eu beaucoup de discussions avec Axel parce que ce qui a été compliqué pour elle, c'est que les gens ont pensé longtemps qu'il était encore avec Eva Longoria.
Mais oui.
Or, il se trouve que Tony, il a refait sa vie depuis plus de 8 ans, qu'il a deux enfants avec Axel. Et puis, elle est très pudique, très timide. Elle n'est pas forcément à l'aise devant une caméra. Et moi, je lui ai dit, voilà, je veux pas que ce soit un documentaire sur son parcours professionnel exclusivement. Je veux qu'on comprenne aussi qui il y a derrière le grand homme. Et souvent, vous le savez, il y a une femme. Et donc, du coup, elle m'a fait confiance et j'en suis très, très heureuse.
Est-ce qu'elle vous a demandé de couper des passages ou est-ce que, pardon, mettons, pendant au fil de la conversation, elle va trop loin, elle vous demande de couper?
Pas du tout. En fait, on a vraiment eu carte blanche. Ils ont vu le montage une fois le documentaire terminé et ils n'ont rien touché. Mais encore une fois, c'est une question de confiance. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans leur lit et savoir de quel côté se couche l'un et de quel côté se couche l'autre. Donc, je pense qu'une fois que la confiance s'est installée, en général, ça marche. Et la preuve, c'est que rien n'a été coupé au montage.
C'est vraiment un documentaire édifiant au sens étymologique du terme. Vous revenez, et je vais y revenir moi aussi, sur la réussite, parce que c'est quelque chose de très important. D'autant que Tony Parker a une double culture, il faut le dire, française évidemment, mais américaine, parce que son papa est américain, papa qui témoigne, et sa maman hollandaise également. Il y a une séquence, vous êtes avec lui, avec Tony, en voiture, sur une route américaine, et vous lui faites remarquer qu'aux États-Unis, bon, on va entendre ce que vous lui dites.
Il y a un truc ici, c'est que tu peux te dépenser ton argent sans te soucier du regard des autres.
Ouais, les Américains, ils sont contents. La réussite, justement, ça les motive. En France, c'est tout le contraire.
On a plein d'autres choses, mais on n'a pas ça.
Moi, la France, pour moi, c'est dommage. On a tellement un beau pays. On a tellement de belles choses en France. C'est vraiment dommage, cette mentalité. Parce qu'on est tous d'accord. Hein.
Dans l'absolu,
mais on fait quoi pour changer? Donc moi, personnellement, j'ai mis mon argent dans une académie, dans des clubs de basket. Moi, à un moment donné, c'est facile de parler, hein, de le dire, tout ça. Mais après, il faut le faire, il faut montrer en action.
Voilà, je dois le dire, même autour de Paris, il y a des gymnases, Tony Parker, j'en ai vu, et là aussi c'était important. Il y a un grand moment d'émotion, Alessandra Sublet, quand Tony Parker reçoit à Lyon la médaille de l'Ordre National du Mérite. Il est devant toute sa famille, il y a Gérard Collomb, le maire de la ville, Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, l'Olympique Lyonnais, et il est submergé par l'émotion, les larmes lui montent aux yeux, il n'arrive plus à parler. Racontez ce moment, parce qu'on ne peut pas le voir comme ça, et passer le son, ça ne fonctionnerait pas.
Ouais, ce qui est très rare, parce que Tony est assez pudique, et en fait, cet événement se passe au moment où il annonce sa retraite aussi. Ouais. Et je pense que tout sort à ce moment-là, alors que c'est pas salver le maillot, c'est un événement important, mais c'est pas l'événement le plus important non plus de sa carrière. Et c'est vrai qu'il y a toute sa famille, il y a sa femme, ses enfants, et il craque littéralement. Mmh. Et c'est vrai que même moi, après, on a une discussion tous les deux, et j'ai dit, mais c'est la première fois que je te vois comme ça. Et il me dit, mais en fait, je réalise maintenant tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai fait. Et en plus, Tony, il est pas, la retraite de Tony Parker, c'est pas, je vais profiter dans mon transat avec une paille et un verre.
Ah non. Il s'occupe du club de l'ASVEL maintenant.
Il s'occupe du club de l'ASVEL. Les deux présidents, hommes et femmes, sont ses amis d'enfance. On le voit dans le documentaire. Ça aussi, c'est exceptionnel. Tout l'entourage de Tony, familial et amical, travaille avec lui. Il a aussi cette académie à Lyon où il propose à des jeunes, grâce à des bourses, de pouvoir réaliser leurs rêves et faire leur sport, notamment le basket et le e-dance. Mmh. C'est-à-dire, en fait, il s'arrête jamais, mais toujours avec ses valeurs de transmission pour la jeune génération. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un exemple exceptionnel. Et c'est pour ça que je me bats pour faire ce documentaire, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, pour les jeunes et les moins jeunes, c'est un exemple extra. Et ça veut juste dire, et c'est important qu'on le dise et qu'on le redise, que tout est possible, qu'on peut partir de rien à force d'envie et de travail, et qu'on peut y arriver. C'est pas donné juste à des gens en particulier. Vous savez, j'ai rencontré un comportementaliste il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, vous savez, le mouvement crée la chance. On n'est pas forcément avec une étoile au-dessus de la tête. C'est en bougeant, en faisant des choses qu'on y arrive, en se démenant aussi. Et ces documentaires que je produis ont ces valeurs-là et j'adore ça.
Et exactement, ça. Et il montre quelque chose, pour vous donner raison, il montre ce qu'il faisait dans sa salle, la manière dont il a appris à faire un panier qui n'appartenait qu'à lui, parce que les types contre qui il jouait faisaient une tête de plus que lui. Il faisait des 2m10, des 2m15, et donc vraiment, c'est pas juste une façon de parler, on peut vraiment y arriver quand on se bat. Tout à fait autre chose, hier on recevait dans Culture Média l'humoriste Jarry, qui vous a reçu dans le Jarry Show, il fait chez lui tous les jours à 18h30. Vous lui avez fait une petite confidence, vous vous souvenez de la confidence, Alessandra ?
Ouais.
Ouais. Et là, attendez, il a une question pour vous. Il a une question pour vous, Jarry.
Salut Alessandra. Alors moi, j'avais une petite question pour toi, Alès. Je sais que t'es parti en vacances il y a pas très longtemps avec ton copain et que tu t'es fait arrêter à l'aéroport aux douanes parce que tu avais dans ta valise, petite coquine, caché un sextoy géant très réaliste. Alors j'avais une question. Je voulais savoir quelle était la taille de ce sextoy. Est-ce plutôt Rocco Siffredi ou Bruce Lee ? Merci. Bisous.
Voilà, alors, on remercie les amis exceptionnels que j'ai et qui me font des blagues extraordinaires. Évidemment, je ne me trimballe pas avec un sextoy dans ma valise, on me l'a mis à mon insu dans la valise et effectivement, en arrivant à la douane en Turquie, en fait, comme il était scotché à une bouteille d'eau, j'ai dû ouvrir ma valise en me demandant franchement ce qu'il pouvait y avoir dedans parce que j'avais mis rien d'autre que des affaires. Et donc, effectivement, j'ai été très surprise. Mais oui, je remercie
attendez.
Les amis qui ont beaucoup d'imagination.
Attendez, mais vous n'avez pas répondu à Jarry, parce que ici, c'est une émission de journalisme. La taille, c'était quoi?
Le sexo, il était très, très gros. Mais franchement, j'avais jamais vu ça.
Et attendez.
Est-ce que tu peux le récupérer parce qu'il vaut très cher?
Non, mais je suis sérieux. Et vous avez dit quoi aux douaniers turcs?
Mais alors déjà, ils parlaient pas très bien l'anglais, donc du coup j'étais hyper embêtée. Et en fait, c'est quand je les ai vus tous rire que j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai pu mettre dans ma valise? Et non, ils m'ont pris la bouteille d'eau et ils m'ont laissé le sextoy.
Ah, donc vous l'avez toujours?
Ah, mais non. Ah non, je l'aurais rendu, mais je l'ai pas gardé. De toute façon, franchement, je me demande comment j'aurais pu me servir d'un truc pareil.
Merci Alessandra Sublet. Voilà, voilà. C'est pas facile d'enchaîner avec ça. Tony Parker, confidentiel. Non. Mais c'est pas confidentiel à ce point. Ça ne dépasse pas la porte de la chambre à coucher. C'est ce soir sur TMC. Merci d'avoir été avec nous en direct sur
Merci
Europe 1.
Philippe, et merci d'être à l'antenne avec nous. J'embrasse vos auditeurs et je leur souhaite bon courage pour ce confinement.
Merci, à très bientôt, Alès. On va de retrouver Hélène Manarino pour le journal de la culture. Un peu de musique. Waouh, on reprend nos esprits. On écoute Fuseau. Le titre est très simple. Ça s'appelle